Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le traditionnel Flash Résultat. Avant Culture Sport, où nous allons recevoir Alvin Henry, l'entraîneur de l'UA Cognac. Nous allons revenir sur les résultats du week-end en commençant par le football et le National 2. La CFC qui se déplaçait à Angers. Retour au championnat pour les Angoumoisins après 2 semaines de Coupe de France. C'est un déplacement important contre une équipe d'Angers qui était invaincue à domicile. Et par rapport aux Angoumoisins qui étaient en recherche de points, eh bien, il était important d'aller faire un résultat. Le match commence idéalement pour la CFC, hein, qui obtient un penalty au bout d'une minute de jeu. Un penalty qui, malheureusement, n'est pas transformé par Léo Fichten, qui voit le gardien d'Angers partir du bon côté. Derrière, un match plutôt équilibré, et la décision va se faire dans le dernier quart d'heure avec une frappe à l'entrée de la surface plein axe de Benjamin Barque, qui permet à la CFC d'ouvrir le score. Il reste derrière un gros quart d'heure à tenir. Les Angevins égalisent, mais leur but est refusé pour position de hors-jeu. Et finalement, la CFC empoche 3 points hyper précieux puisque les Angoumoisins s'imposent 1-0. Les autres résultats de cette poule D de National 2 avec vendredi, les Herbiers et Lorient qui ont fait 1 partout, Vierzon et Andrézieux qui ont fait 0-0, le Gol FC qui a battu Romorantin 3-0, Chamalières a battu Trélissac 1-0, donc la CFC s'est imposée à Angers 1-0, Bergerac et Saumur ont fait 1 partout, Moulin-Isère a battu Bourges 2-1 et enfin le Stade Bordelais a battu Nantes 2-1. Au classement, premier Goul FC 15 points, deuxième Saumur 13 points, troisième Andrézieux 12 points. La CFC remonte, la CFC gagne 4 places ce week-end puisque la CFC pointe à la 8ème place avec 9 points. Un point d'avance sur la zone rouge mais seulement 3 points d'avance sur le 3ème, donc c'est un championnat hyper serré. Le week-end prochain, Coupe de France, les deux Charentais encore en lice, la CFC et Merpin connaissent leurs adversaires du 7ème tour et même du 8ème tour puisque les Angoumoisins vont recevoir vendredi 20h au Stade Lebon la formation de Trélissac qui est entraîné par Hervé Louval, l'ancien entraîneur de la CFC, et Merpin recevra dimanche l'Aige Cap Ferret, donc pour une place au 8ème tour, sachant qu'au 8ème tour les tirages ont été déjà faits puisque la CFC rencontrera le vainqueur de Stade Bordelais Girondins Bordeaux, donc potentiellement une affiche au 8ème tour contre les Girondins Bordeaux, et du côté de Merpin on affrontera soit le Stade Poitevin soit Châteauroux, donc des belles affiches pour nos clubs charentais ce week-end. En régional 1, malheureusement 2 défaites pour nos charentais hein, puisque la réserve de la CFC s'est inclinée à domicile contre Brive 4-2, un match compliqué hein, face à une équipe de Brive qui comportait où il y avait beaucoup de joueurs qui avaient joué plus haut. Malheureusement, les buts de Georges et de Lani n'auront pas suffi pour la formation de David Perrier. Et Cognac, notre invité, la formation d'Alvin Henry. Cognac, malheureusement, s'incline au SAM, à Mérignac et ça, 3-0. Au classement, Brive est en tête avec 10 points. La réserve de la CFC est deuxième avec 8 points. Cognac, malheureusement, est 13e avant-dernier avec 1 point, mais c'est un classement qui est tronqué par le nombre de matchs en retard puisque les deux équipes de Mérignac sont encore en Coupe de France. Donc, il y a certaines formations qui n'ont joué que 3 matchs alors que d'autres en ont joué 5. On va passer tout de suite à la Régionale 2 avec Leroy qui signe sa première victoire de la saison. Une victoire éclatante contre la réserve de Châtellerault puisque Leroy s'impose 6-1. Une bonne opération pour Leroy au classement qui remonte à la 9ème place avec 4 points. Donc la saison de Leroy est lancée en poule B. Fortune diverse malheureusement pour les Charentais puisque Charente-Limousine s'incline à Migné-Auxances 2-1. Et dans le derby du Cognacé entre la réserve de Cognac et Merpin, c'est Merpin qui s'impose, donc Merpin est vraiment en ce moment sur une dynamique hyper positive, qualifié en Coupe de France et a remporté 2 victoires sur 3 en championnat. Enfin en poule D, Jarnac fait la bonne opération du week-end, Jarnac s'impose contre la réserve de Libourne 3-1, malheureusement Sirol s'incline à l'immense 4-1, une victoire de Jarnac qui leur permet de prendre la première place tout simplement puisque Jarnac est premier avec 9 points, Sirol est troisième avec 8 points, donc plutôt un bon comportement pour nos équipes charentaises. En Régional 3 en poule C, première victoire pour Confolan qui s'impose à Bessines-Morterolles 1-0. Dans le même temps, Ruffec va gagner à Vic-sur-Gartempe 3-1. Au classement, Ruffec est 2ème avec 10 points, 5 points de retard sur Limoges. Confolan est 9ème avec 4 points. En poule F, la poule des Charentais, Saint-Alex s'impose contre Ribérac 3-2 dans le choc au sommet. La Roche-Rivière s'incline 2-0 contre Saint-Julien. Puymoyen va s'imposer 3-1 à Périgord-Centre et Soyaux. Baruel 4-1 dans le derby charentais. Dans le match d'hier, Vindel bat Verneuil-sur-Vienne 2-0. Donc les Charentais sont plutôt bons dans cette poule puisque Saint-Arix est premier avec 15 points. Puymoyen est 4ème avec 8 points. Soyaux est 5ème avec 7 points. Vindel est 7ème avec 6 points. Et enfin, Ruel est 9e avec 5 points. En poule G, la balade se continue pour l'Alliance 3B qui s'impose à l'Alliance du Moron 1-0. La formation d'Adnan El Archi est reçue 4 sur 4, 4 matchs, 4 victoires, 12 points et occupe la première place au classement. En D1, je vais donner rapidement les résultats du week-end avec la victoire de Moutier 5-0 contre la Couronne, la victoire de Saint-Michel 3-2 contre Merpin, Champigny-Baroulé 2-0, Basso-Babri 2-1, Le Roy gagne au Portugais 4-2 et enfin l'Alliance 3B gagne à l'ESSAC 1-0 au classement. C'est Saint-Michel qui est en tête, 5 matchs, 5 victoires. La formation de Yannick Camus fait un parcours sans faute. En deuxième division, en poule A, Charente-Limousine s'impose 6-1 contre Saint-Arix. Sireuil gagne 4-0 à La Roche-Rivière. Mornac bat 7-1 Montbron. Ruffec et Chasseneuil font 1 partout. Bel Air et Mans font 2 partout. Aigre et Verdi font 3 partout. Au classement, c'est Sireuil qui est en tête avec 13 points devant Mornac, 11 points. En poule B, c'était le choc au sommet ce week-end entre Grande Champagne et Linard. Et Linard s'impose 5-1. Châteauneuf s'incline en domicile contre Champigny 2-0. Ruel bat Nersac 4-0. Sud-Charente bat Montmoreau 2-1. Et enfin Saint-Séverin bat Saint-Brice 1-0. Au classement, Linard est en tête, 15 points, 5 victoires, 5 matchs. Deuxième, Grande Champagne avec 12 points. Troisième, Champigny et Saint-Séverin avec 10 points. On va rapidement revenir sur le résultat du SA15, on l'évoquait avec Fred précédemment. Le SA15 qui s'est incliné d'une courte tête contre Rouen, 26-22. En national, Fabrice Landreau a été limogé la semaine dernière et malheureusement l'UCS a encore perdu contre Rennes, la lanterne rouge, 14-13. Un résultat qui malheureusement place les Cognacés en dernière position au classement. En fédéral, une belle résistance de l'UBJ, mais qui s'incline malgré tout du côté de Mauléon, 37-25. En handball, malheureusement, deux défaites pour nos Charentais, hein, puisque en National 2 masculine, l'ETEC, qui était invaincu jusqu'à présent, s'incline à domicile contre Bruges, 41-29. Tandis que l'ACH, qui, elle, se déplaçait du côté du pays occitan, s'incline 31-22. La LJO, pareil, même sort, s'incline 29-17, donc c'est compliqué pour les Charentais. Tout de suite, Culture Sport avec Alvin Henry, l'entraîneur de Cognac. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Alvin Henry, coach de l'UA Cognac, et nos intervieweurs favoris sont là. Dédé, bonjour.
Salut.
Christian, bonjour.
Pour les forces.
Salut Didier.
Bienvenue donc, et bienvenue à Alvin, merci d'avoir répondu à notre invitation, Alvin.
Bonjour à tous, merci Didier de l'invitation.
Salut.
Merci.
C'est avec plaisir. Donc, je vais te laisser entre les mains expertes de Dédé et de Christian. Christian, je te suggère d'ouvrir le feu avec ta première question.
Ouais, ben écoute, on va revenir sur les matchs de Cognac qui ont été disputés jusqu'à présent. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il y a une compétition qui s'appelle la Coupe de France. Et ben, vous avez eu le malheur d'affronter à chaque fois des équipes qui étaient encore en jeu. Donc, vos matchs ont été reportés. Donc, ça fait que vous n'avez fait que 2 matchs de championnat. J'imagine que ça, c'est frustrant finalement de n'avoir joué que 2 fois.
Oui, effectivement, on est des compétiteurs, donc on travaille la semaine pour le match du week-end. Donc quand les matchs sont entrecoupés de matchs de Coupe de France, et nous malheureusement on n'a pas eu trop de chance au tirage puisqu'on on s'est fait sortir par une nationale 3. C'est vrai que c'est difficile de laisser concerner les joueurs sur ces week-ends là où il n'y a pas de compétition.
Ça fait justement 2 week-ends là que vous êtes reportés consécutivement. Comment t'as géré? Est-ce que t'as réussi à caler des matchs amicaux par exemple?
Bien sûr. Alors on était sur un bloc de 5 matchs d'affilée, il me semble. Donc il y a 2 semaines, le week-end, on a laissé nos joueurs au repos.
Ça a permis donc 3 tours de Coupe de France plus 2 matchs de championnat.
2 matchs de championnat. ça a laissé quelques jours libres un petit peu à nos joueurs, donc ça c'est pas plus mal. Et le week-end dernier, on est parti jouer contre la réserve des Chamois Niortais pour vite retrouver le rythme de la compétition afin de préparer au mieux notre match qui nous attend ce week-end.
Tu as pris donc la tête de l'UAC cette année. Tu es un jeune entraîneur en plus, puisque tu as 29, si je dis pas de bêtises, 29 ans.
Ouais, je viens d'avoir 29 ans. Ouais.
Déjà, comment ça s'est passé la saison dernière pour toi, puisque tu étais l'adjoint de Thierry Sardot, tu avais arrêté de jouer parce que tu coachais chez les jeunes, mais tu voulais vraiment te baser sur le senior. Comment ça s'est passé cette année d'adjoint avec Thierry Sardot à Cognac?
C'est vrai que moi j'ai arrêté de jouer il y a un an. Je vous avoue que l'après Covid m'a beaucoup interrogé sur mon futur, et c'est vrai que dans mon parcours de formation, il était important que je m'oriente vite sur les seniors. Je vais dire qu'en toute humilité, j'ai vécu beaucoup de choses chez les jeunes. Il fallait vraiment que je change de public si je voulais continuer mon parcours de formation. Le fait que l'ancien entraîneur, donc Olivier, nous quitte, et que Arnaud Demuth, son adjoint, pareil, nous quitte, a laissé, on va dire, une place vacante. Et j'ai postulé sur ce poste d'entraîneur adjoint. Les dirigeants ont accepté, j'ai fait la rencontre de Thierry, que je ne connaissais absolument pas, donc qui était un ancien sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie, auquel j'ai pu apprendre à ses côtés. Malheureusement, ça a été une année compliquée, puisqu'on est descendu en National 3. Alors c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'on avait le potentiel pour pouvoir exister à ce niveau-là. Malheureusement, la transition entre l'ancien coach et le nouveau coach s'est fait un petit peu tardivement, et on va dire qu'on a commencé notre saison avec un ou deux mois de retard, ce qui nous a coûté les quelques points qui nous manquaient en fin de saison. À l'issue de cette saison, le coach Thierry a souhaité démissionner de ses fonctions pour différentes raisons, et naturellement, les dirigeants se sont orientés vers moi, qui était adjoint, pour me proposer ce poste-là, parce que déjà ils pensaient que en termes de compétences je pouvais relever le challenge, que d'un point de vue parcours de formation et continuité, c'était bien que ça soit moi qui reprenne la suite, puisque je connais le club et les joueurs du coup parfaitement. Et puis après, on va pas se mentir, d'un point de vue économique, c'était aussi intéressant que ça soit moi qui succède à la tête de cette équipe Fagnon, puisque ça fait déjà maintenant 2 ans que je suis salarié au club, et que du coup ça a évité le recrutement d'une personne extérieure.
Oui, parce qu'on le rappelle, donc ces deux dernières saisons, tu jouais, t'étais en même temps en RTJ, donc responsable technique jeune, oui, notamment en charge du tournoi à Arsando, qui a lieu à Cognac en fin de saison. Et donc oui, l'an dernier, adjoint de Thierry Sardot, finalement, l'UAC a choisi une solution interne pour, oui, pour partir en R1.
Oui, tout à fait. Après, voilà, on a pas mal de blessures à soigner. C'est pas évident quand on descend du niveau national et qu'on atterrit au niveau régional. Il faut qu'on fasse face à 12 départs sur un groupe de 20. Donc, ça fait quand même plus de la moitié de l'effectif qui a été changé, qui a été remanié. Donc, on part sur une toute nouvelle dynamique avec deux objectifs principaux. Le premier, de créer une nouvelle dynamique de groupe, que les joueurs aient envie de passer du temps ensemble, de s'entraîner ensemble, de vivre ensemble. Et un deuxième objectif, c'est celui de mettre un nouveau projet de jeu en place, une nouvelle méthodologie de travail en place, qui correspond un peu plus à mes idées et à mes convictions, de manière à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voilà nos deux objectifs prioritaires.
Et avant de parler du recrutement, j'aimerais aussi parler de ton adjoint, puisque tu as un adjoint. Alors, tu as été l'adjoint, maintenant tu as un adjoint. Et ton adjoint, c'est un ancien de la maison angoumoisine, puisqu'il s'agit de Gaël Maya. Gaël Maya, quand même, qui est champion du monde, et ça, on l'est à vie. Ça a été naturellement que tu as fait appel à Gaël?
Ça a été ma priorité. Ma priorité, étant donné que je suis quelqu'un de relativement exigeant, j'ai voulu partir avec un staff, parce que pour moi, la base avant même de parler de recrutement ou de joueurs, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes et d'avoir les compétences au bon endroit. Donc je me suis attaché les services donc de Gaël Maya, mon premier adjoint qui sera en charge de tout ce qui est partie vidéo. Donc fraîchement diplômé du BEF, alors on s'entend très bien avec Gaël et c'est surtout qu'on a des personnalités qui se complètent. Moi je suis quelqu'un un petit peu de, on va dire de relativement explosif et Gaël lui c'est quelqu'un, c'est la force tranquille, ouais. C'est la sagesse, c'est ouais. Quelqu'un de très calme. Donc sur cet aspect là on est plutôt complémentaires et il y trouve bien sa place. Ensuite j'ai un deuxième adjoint qui s'appelle Benoît Vulvin, qui a travaillé à Toulouse, qui était le préparateur athlétique donc de Libourne l'année dernière, qui a été en sélection de Tahiti, donc qui est venu nous rejoindre, qui lui est en charge toute la partie athlétique. Et puis on a continué avec Olivier Churlot, qui est l'entraîneur des gardiens, Anton Agent qui s'occupe de toute la partie médicale. Donc pour moi c'était vraiment très important, avant même de parler des joueurs et du terrain, d'avoir des personnes avec des compétences essentielles pour accompagner l'ensemble des joueurs.
C'est une chance d'ailleurs ça pour toi d'avoir un staff aussi étoffé, parce que c'est pas tous les clubs de R1 ou c'est pas tous les entraîneurs de R1 ou de R2 par exemple qui peuvent se targuer d'avoir un adjoint pour la vidéo, pour la prépa physique ou pour tout ce qui est gardien de but.
Disons que moi ça me permet vraiment de me focaliser uniquement sur le projet de jeu, de laisser la compétence de la partie athlétique à un adjoint, de la vidéo à un autre, des gardiens de but à un autre, du suivi médical à un autre. Voilà, je ne pense pas maîtriser toutes ces compétences-là. Donc autant donner les parties qui correspondent aux compétences de ce staff aux bonnes personnes, de manière à voilà, si on arrive à réunir chaque compétence de chaque personne et de le centraliser autour d'un groupe de joueurs et d'un collectif, ben on en sortira tous vainqueurs.
Ouais. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi 19h-20h30, nous retrouvons Alvin Henry qui répond aux questions de Dédé de Christian.
Avant de laisser la place à la première question Dédé, on avait reçu la semaine dernière Romain Rigallo, l'entraîneur de Merpin, avant son sixième tour de Coupe de France. Toi et Romain, vous avez un parcours un peu similaire, hein, puisque vous avez tous les deux coaché chez les jeunes à Cognac notamment. Et d'ailleurs, il avait une question pour toi. On l'écoute tout de suite.
Voilà, je sais que c'est sa première année en tant qu'entraîneur des seniors. J'espère qu'il s'éclate. Et puis, bah, surtout, je lui souhaite que ses objectifs y arrivent tout simplement. Je souhaite le meilleur à Cognac, hein, tout simplement. Mais une question. Non, est-ce que ouais, pourquoi pas ? Est-ce que le monde des seniors, entraîner les seniors, ça, il aime bien. Et qu'est-ce qu'il préfère ? Est-ce qu'il préfère entraîner les jeunes ou les seniors ? Ouais, ça peut être une bonne question ça.
Déjà, je félicite le club de Merpin pour son parcours en Coupe de France. C'est top qu'un club voisin puisse avoir ce genre de parcours pour la région, pour la visibilité. Franchement, c'est vraiment génial. Donc.
Et puis en plus, ils vont peut-être vous venger en Coupe de France.
Et on espère. Non, ça serait vraiment top. En plus, c'est historique pour le club. Donc, c'est des aventures humaines qui sont faites pour être vécues. Donc, ce que vit actuellement Merpin, c'est top. Et s'il nous écoute, je le conseille de vraiment savourer et profiter l'instant présent, parce que c'est des super moments quoi à vivre. Donc, moi qui n'en ai pas encore connu en tant que joueur, un petit peu en tant qu'éducateur, un petit peu en tant que joueur, mais non, c'est des super moments. Pour répondre à sa question, c'est complètement différent le monde senior et le public jeune puisque quand on est face à des jeunes, on est dans l'apprentissage, on est dans la formation. On est là pour les faire évoluer, mais aussi pour les faire avancer en tant que futur citoyen. On n'est pas que centré sur la partie foot. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je gérais les jeunes. C'est que je sais que j'étais en train de former des futurs footballeurs, certes, mais surtout des futurs citoyens. Et pour moi, le sport en général, c'est l'école de la vie. Donc, c'est très différent. Les seniors. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il y a beaucoup de gestion, il y a une gestion sociale à avoir puisque les seniors ont une vie, ils ont une vie au-delà du football, ils ont une vie familiale, ils ont un environnement, ils ont une vie personnelle. Ça influe beaucoup sur leur capacité mentale et sur leur façon d'être sur le terrain et hors du terrain. On ne peut pas s'adresser de la même manière avec des enfants qu'avec des adultes. Il y a une gestion qui est complètement différente. Et je vous avoue que c'est plus difficile. Je passe plus de temps à gérer des égos ou la partie externe au foot que le contenu footballistique à proprement parler. C'est complètement différent. Mais ça fait partie du métier, hein. Je m'éclate.
À la limite, j'aurais deux questions. D'abord, félicitations, parce que je comprends que ça ne doit pas être facile tous les jours, puisque c'est la société qui veut sortir, donc c'est très compliqué. Il y a le travail au niveau des adultes, et puis il y a les jeunes qu'il faut affronter. C'est deux choses différentes. Moi, ma question apporte sur le projet. J'ai bien compris que le projet, c'était d'abord le jeu. Mais en fonction du jeu, il y a certainement un projet, mais il y a aussi des objectifs. Avec le staff aujourd'hui qui est autour de tout ça, il y a bien un objectif dans, je dis pas peut-être cette saison, mais dans les mois ou dans les années à venir.
En fait, si vous voulez, il y a avant de parler du projet de l'équipe première, il y a déjà un projet club. Le projet club, il est très simple. C'est qu'on veut que nos équipes seniors, que ça soit notre équipe première ou notre équipe réserve, soient alimentées par la formation cognacaise. C'est-à-dire que quand un joueur signe à Cognac, il signe sur un parcours, un processus qui, à la sortie des U18, doit l'amener sur nos équipes seniors pour créer cette identité charentaise. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce que le club veut mettre en place. Donc forcément, ça passe par des étapes dans notre formation qui sont importantes, mais c'est vraiment l'orientation sportive du club. Et ensuite, au niveau de l'équipe première, au-delà du projet de jeu, effectivement, on a des objectifs. Donc cette année, nous, on veut faire vraiment preuve d'humilité. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de blessures à soigner. On doit faire face à des nouveaux dirigeants. On doit faire face à 12 départs sur nos équipes seniors et pas des moindres. C'est vraiment des joueurs cadres qui sont partis. Donc on est en reconstruction. On est vraiment sur une phase de transition. Donc cette année, on a deux objectifs bien distincts qui sont le premier, apprendre à revivre ensemble, créer une nouvelle dynamique de groupe, et de l'autre côté, apprendre un nouveau projet de jeu, une nouvelle méthodologie de travail. Ça, c'est vraiment nos deux objectifs prioritaires de cette année. Après, sur les années futures, pour moi, on ne peut pas parler de montée. On a trop de blessures à soigner pour pouvoir parler de montée. On ne peut pas en parler, mais forcément, au vu des moyens et des infrastructures qu'on a, des moyens humains, des moyens matériaux, financiers qu'on peut avoir actuellement au club, je pense que le club se doit d'évoluer, en tout cas, à minimum, au niveau national 3, minimum. En tout cas, on a les moyens pour. Ça serait manquer d'ambition de ne pas souligner cet aspect-là.
Oui, si j'ai bien compris, il manque aussi un petit peu d'effectifs pour vraiment voir et se pencher sur la suite. Bon, on peut pas tout avoir, surtout quand on a connu des périodes difficiles. Donc, je comprends très bien que c'est compliqué.
Bah, Rome ne s'est pas fait en un jour.
Exactement.
C'est pour ça que. Je pense que c'était nécessaire de recadrer, mais je trouve que je suis admiratif parce que, en plus, Alvin a la tête sur ses épaules quand il parle, il sait de quoi il parle, et moi je suis impressionné sur la façon des réponses.
C'est gentil. Après, voilà, moi, ça fait, j'entame ma sixième année au club, j'ai été joueur, j'ai été éducateur chez les tout petits, chez les plus grands. Donc le club, je le connais, je sais les besoins, je sais ses forces, mais je sais aussi ses faiblesses. Malheureusement, l'année dernière, ça a été une année un peu délicate. Il faut pas oublier qu'on a changé de dirigeant au mois de novembre, on a changé de coach au mois de juin. À la fin d'année, on descend de National 3, on change une nouvelle fois de coach, 12 joueurs s'en vont. Il y a trop de blessures. Il y a trop de blessures. Donc, le travail avec les dirigeants lors de la période de mercato au mois de juin, c'est plutôt bien fait, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai un effectif de 20 joueurs. Je peux compter sur un staff vraiment compétent. Donc, ça, c'est vraiment mon premier recrutement. Il a été là. Maintenant, il faut être dans l'apprentissage, dans la patience, garder l'humilité pour pouvoir reconstruire, rebâtir. Et puis quand on sera bien stabilisé, peut-être qu'on pourra parler d'ambition et de prétention. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Comment tu expliques la grande migration des joueurs qui ont donc les 12 départs cet été, et d'autre part, ça fait deux fois que tu parles de ta méthodologie, pardon. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Oui. Alors, sur les 12 départs, on a 4 arrêts. 4 arrêts pour raison personnelle, raison familiale, c'est-à-dire qu'il y a 4 joueurs, et non des moindres, puisque c'était pas mal de 4. Je parle de Quentin Balou, Alexandre Limousin, Hugo Renvaux, Basile Nado. Ces 4 joueurs-là sont arrêtés soit pour raison professionnelle, soit pour raison familiale. Et je pense que le Covid n'y est pas pour rien. Et ensuite, on a 8 départs. Sur les 8 départs, étant donné qu'on a recruté tardivement pour étoffer notre effectif de National 3, on est parti chercher des joueurs qui habitent relativement loin. Donc ces joueurs-là, étant donné qu'on n'est plus en National 3, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis dans leur région d'origine. Mmh. Et c'est normal, on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir. Mmh. Mais donc, du coup, on fait face à 12 départs. Donc c'est énorme dans un effectif de National 3 ou de R1, avoir 12 joueurs qui partent, c'est énorme. Ça demande tellement de temps pour reconstruire ça, et surtout pour que la mayonnaise, entre guillemets, prenne. C'est pour ça que je vous dis, on peut même pas parler de montée ou d'ambition. Nous, on veut juste garder de l'humilité et stabiliser le club, stabiliser l'effectif au niveau où on est. On a trop de blessures à ça. C'est pas possible. On peut pas prétendre autre chose.
Vous écoutez Attitude 98.3 et 97, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Alvin Henry qui répond aux questions de Denis et de Christian.
Il y a combien de blessés actuellement? Parce que il y a eu pas mal de départs, et là en plus vous débutez la saison avec des blessures.
Les premières blessures, forcément c'est au niveau de l'effectif, on doit pallier à 12 départs. Il y a des blessures psychologiques, c'est-à-dire que quand on descend de National 3 à Régional 1, il y a certains joueurs qui ont des volontés ou des envies d'évoluer plus haut, mais malheureusement ils se retrouvent en Régional 1, donc il y a une certaine frustration à gérer. Il y a tout ce qui est psychologique. Après, il y a des blessures forcément en interne. Il y a une reconstruction administrative qui est mise en place, donc forcément ça demande du temps. Donc tout ce qu'on demande, on peut pas l'avoir sur l'instant T. Il faut être patient. Donc c'est tous ces types de blessures. On sait qu'on en plus sur tous les terrains, on va être attendu parce qu'on est l'équipe qui descend de National 3. Donc c'est psychologiquement, faut être prêt à cela. Donc c'est plusieurs petites blessures qui prennent du temps à se soigner pour qu'on puisse arriver à nos objectifs.
Non, mais c'est vrai qu'une descente d'une relégation, hein, quel que soit le niveau, c'est pas anodin. D'ailleurs, on le voit, puisque les deux équipes qui sont descendues avec vous ont des parcours complètement différents. On prend Bressuire, qui est un club établi, qui a été depuis longtemps en National 3 et qui a redescendu en R1. Je pense que c'était plus un accident pour eux, et qui s'en sort très bien, parce qu'ils sont en tête de la poule A. Dans l'autre poule, la poule C, donc c'est Tartas, le club des Landes, qui est descendu et qui, lui, s'en sort pas. Simplement, ils sont, je crois, avant-dernier. Donc c'est vrai qu'une descente, au final, il faut que les fondations soient solides dans un club pour s'en remettre. Et c'est vrai que Cognac, tu parlais de blessures, c'est pas des blessures de joueurs, hein, c'est vraiment que Cognac, le club, et qu'on va descendre.
Alors, c'est l'exemple est très bon, Christian. Bressuire, qui, lui, a gardé toute sa structuration de club, a gardé tous ses joueurs.
Ils ont dû changer de coach, au final, ouais.
Il y a juste le coach qui a changé pour impulser une nouvelle dynamique, et au final on voit que dans les résultats ça se passe plutôt bien pour eux. Et à l'inverse, on a Tartas et je vais, alors je nous mets pas dans la boucle, mais on a Tartas qui a perdu énormément de joueurs, qui a perdu son entraîneur, qui doit reconstruire, rebâtir, qui est sur une année de transition, et on voit qu'ils ont du mal à s'en sortir. Après, on peut pas tirer de conclusions trop hâtives, parce que
bien sûr.
Mais c'est exactement ce que nous, il nous arrive. On est sur une période de transition où on doit, du côté sportif, pallier à de nombreuses blessures, et aussi sur le côté administratif, on doit pallier à de nombreuses blessures. Il faut pas oublier que les subventions de national à régional ne sont pas les mêmes, que les aides économiques ne sont pas les mêmes, que le sponsoring n'est pas le même. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte.
C'est un train de vie finalement à redécouvrir.
Exactement. Alors, ce qui est bien, c'est que sur le côté sportif, on a vraiment bien bossé, bien travaillé. Je réponds à la deuxième question qui m'a été posée sur la méthodologie de travail. Comme je vous l'ai dit, on a réussi à bien se staffer. On a entre 5 et 7 entraînements semaine. Donc pour un club de régional 1, c'est quand même énorme. On s'entraîne le soir, on peut s'entraîner le matin, on a des séances vidéo, on a un préparateur athlétique, un suivi athlétique avec chaque joueur, on met beaucoup de choses en place pour vraiment mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour optimiser entre guillemets la performance, parce que on sait que ça passe maintenant de nos jours par là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire évoluer nos joueurs. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que c'est tout nouveau pour certains joueurs. J'ai composé mon groupe avec donc 7 cadres de l'année dernière de National 3. Il y a 4 cadres de la R2 qui sont montés avec la Régionale 1. Donc ils passent de 2 à 3 entraînements semaine l'année dernière en Régionale 2 à 5 à 7 entraînements semaine avec un groupe première. Donc c'est changé du tout au tout. Et ça, les joueurs, ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'adaptation. Donc ça peut pas
suite. Le recrutement d'ailleurs, vous l'avez composé comment? Donc il y a quelques cadres de ouais. l'équipe réserve, notamment un que moi je connais très bien et que je salue au passage, le petit Max, Maxime Sazarin. Surtout c'est le recrutement extérieur. Comment vous avez procédé? Parce que, alors je vais juste te citer deux noms rapidement que je connais. C'est des Charentais qui reviennent en Charente avec Maxence. Non, il était peut-être déjà là.
Ismaël Idrissi,
Youssef Ismaël Boudissa. Idrissi, ouais, qui arrive de Montmorillon ouais. et qui est formé à Angoulême notamment.
Et Youssef Boudissa, pareil, qui était du côté de Saint-Jean-d'Angély, qui est formé à Angoulême et qui est venu. Alors c'est très simple. Cette année, donc moi j'ai réussi à constituer un groupe de 20 joueurs. J'ai réussi à garder 7 cadres de la National 3 l'année dernière, donc Maxence Serra le gardien, Tora Kaba, Joris Kenon, Abdoulaye Camara, Mika Bourine qui est un peu l'image du
l'ancien ouais carrément
ancien
ouais.
du club. Donc j'ai vraiment gardé 7 cadres de la National 3. À cela, j'ai intégré les 4 cadres de la Régionale 2. Pourquoi? Parce que j'ai voulu recentrer un peu le projet club. C'est-à-dire que ces cadres-là, ces joueurs-là, finalement, ça fait des années qu'ils sont au club, ça fait des années qu'ils sont avec l'équipe réserve, ils ont l'amour du maillot, l'amour du club, et je me dis qu'avec cette descente en Régional 1, si on les intègre pas dans cette équipe première, alors que pour moi, ils ont largement et le potentiel et leur place, on le fera jamais. La marche était peut-être un peu haute en National 3. Là, en Régional 1, je pense que ça leur correspond. Donc, j'ai voulu, à travers cette promotion interne, montrer à l'ensemble de la région que l'UA Cognac, c'est des promotions internes, c'est une formation cognacaise. Et à cela, j'ai ajouté donc un joueur U18 et un joueur U19 à fort potentiel. Donc, le petit Ismaël Diop, qui a intégré la National 3 à partir de janvier l'année dernière, et Sofian Lasfar qui lui a intégré la Régionale 2 et qui a fait un match avec la National 3, qui sont vraiment l'image du club puisque formation cognacaise. Il faut savoir que Sofian Lasfar est chez nous depuis U6-U7 et Ismaël Diop est formé à Angoulême et a intégré l'UA Cognac à partir des U15 de mémoire. Donc c'était vraiment le symbole d'intégrer les jeunes parce qu'on fait confiance à notre jeunesse. Et derrière, j'ai été chercher des joueurs avec d'une partie profil charentais, donc on l'a dit, Ismaël Idrissi, qui est formé à Angoulême et qui connaît très bien le niveau régional 1 puisqu'il a évolué avec Montmorillon. Oui. Youssef Boudissa, qui connaît le niveau national 3, qui connaît le niveau régional 1 puisqu'il a joué à Hill, qu'il a joué à Saint-Jean-d'Angély, et donc du coup il nous rejoint. Et derrière, j'ai voulu apporter un peu d'expérience en allant chercher des joueurs qui ont joué en national 3, qui ont joué en national 2, ou alors des petits jeunes qui sortent de formation ou qui connaissent déjà 18-19 ans le niveau R1, le niveau R2, auquel nous on va faire confiance puisqu'on est sur un projet à 2 voire 3 années avec eux. Voilà comment s'est composé un peu le groupe.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, pardon, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports chaque lundi, 19h20. Nous retrouvons Aline Henry qui répond aux questions de Daniel de Christian. Messieurs, c'est à vous.
Oui, moi, avant d'évoquer vraiment le sportif avec les résultats en eux-mêmes, j'aimerais te poser une dernière question sur le staff et sur le club, Alvin. Il me semble qu'à Cognac, vous avez 2 vice-présidents, dont un qui est un ancien joueur de Cognac, Samuel Renaud, en l'occurrence. Est-ce que pour toi, c'est bénéfique d'avoir un ancien joueur, finalement, comme président, parce que c'est un joueur qui peut comprendre tes problématiques?
Bien sûr. J'ai la chance d'avoir 2 coprésidents qui me soutiennent. Quand j'ai pris mes fonctions, je leur ai dit, je vais avoir besoin de 2 choses. Je vais avoir besoin de temps et je vais avoir besoin d'échecs. de temps. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, on est sur une transition et on a beaucoup de blessures à soigner. Et j'ai besoin d'échecs. Pourquoi? Parce que je suis nouveau dans la profession. J'ai besoin de mettre mes idées en place. Et mes idées, c'est mes convictions. C'est pas sûr qu'elles fonctionnent. Donc, je vais avoir besoin de réajustement. Donc, la première chose que je leur ai demandé, c'est de me soutenir, mais aussi de m'aider. Et ils l'ont parfaitement compris. Donc, j'ai la chance vraiment d'avoir deux coprésidents qui me soutiennent par rapport à ça. On a un coprésident qui est vraiment sur le côté administratif, Jean-Paul Augerolles, qui gère un peu la partie contractuelle, la partie marketing, sponsoring, communication. Voilà, c'est vraiment le lien administratif. Et Sam Renault, qui lui, est le lien plutôt sportif, avec qui j'échange sur plus le contenu sportif, sur l'attitude des joueurs, sur l'état d'esprit des joueurs, sur des fois quand il faut recadrer certains, le groupe, c'est lui qui s'en charge, c'est lui qui vient dans les vestiaires à la fin des matchs ou pendant les matchs ou au début des matchs pour parler du sportif avec les joueurs, pour échanger. Donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'il a le vécu de joueur, il sait comment ça se passe dans un vestiaire, il sait comment ça se passe dans les têtes des joueurs et il comprend plus facilement les choses qu'un président qui va être impatient du résultat. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance d'avoir ces deux types de présidents, ces deux personnalités de présidents qui me soutiennent. Et puis après, voilà, bon, Jean-Paul Augerolles qui connaît parfaitement son métier, qui est chef d'entreprise, avec qui j'échange énormément, qui est un peu l'homme à tout faire du club, et je le remercierai jamais assez, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir ces deux profils de président avec moi.
Et puis par rapport aux sportifs, bon, on va forcément commencer par la campagne de Coupe de France. Vous avez joué 3 matchs, le premier contre Saint-Brice, victoire 6-0. Le deuxième contre Bel Air, avec une belle retrouvaille avec Yadalis Sako. Ouais. Vous l'avez emporté également, c'était aussi une équipe de D2. Et puis le troisième tour, il y avait eu l'entrée des National 3. Et bim, comme chaque année, j'ai envie de dire, Cognac s'est pris pratiquement la plus grosse équipe au tirage.
C'est ça. Comme chaque année, cette année c'était Lège, l'année dernière c'était le Stade, l'année d'avant c'était Bergerac, l'année d'avant c'était Bayonne, l'année d'avant c'était Trélissac. Au quatrième tour, c'est toujours. Enfin, et en plus de ça, le pire c'est que c'est à l'extérieur.
Ouais,
à chaque fois.
En plus.
Donc bon, après moi, je vais vous dire, je préfère jouer ce genre d'équipe parce qu'on est des compétiteurs et on travaille la semaine pour avoir ce genre d'opposition. C'est vrai qu'on a assisté contre Lège à un super match. Et malgré le score qui ne reflète pas du tout le contenu, puisque bon, on perd 2-0 là-bas sur deux coups de pied arrêtés où on fait preuve de laxiste dans le marquage, on a pu voir que on était capable de rivaliser face à des équipes qui sont au-dessus de nous dans le jeu, dans la possession, dans ce qu'on veut mettre en place. Enfin, j'étais vraiment content de mes joueurs. Maintenant, c'est vrai que le résultat, la finalité, c'est de gagner le match. On n'a pas eu cette finalité-là, mais c'est très encourageant pour la suite. On va s'en servir cette saison, c'est sûr.
Pour toi, c'est un majeur, même si c'est un match perdu et c'est compliqué de le considérer comme un match référence, on peut parler quand même de match référence d'un point de vue jeu terrain?
Non, on l'attend, notre match référence. Oui. Disons que depuis le début de saison, on joue très très bien au ballon et à chaque fois, on se fait féliciter par... Bon, c'est toujours flatteur, mais on se fait féliciter par le coach adverse pour le jeu qu'on produit. On se fait même féliciter par le trio arbitral qui nous dit en Coupe de France c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Donc c'est toujours plaisant, mais la finalité elle est la même, c'est que on laisse échapper 3 points contre Trélissac alors que pour moi c'est un match qu'on doit gagner. On perd en Coupe de France contre Lège alors que c'est un match qu'on doit pas forcément perdre, ou au moins on doit aller jusqu'au tir au but. Et contre Mussidan on fait match nul alors qu'on doit le gagner largement. Donc la finalité elle est la même, c'est qu'on joue bien, on est très beau, on est agréable à regarder, mais on gagne pas. Pourquoi? Oui. Parce que, une fois de plus, je reviens à ce qu'on a dit, on a besoin de temps, on a besoin de patience, on a des blessures à soigner, et ça peut pas arriver. Moi, je prends toujours par exemple ce qui se fait au niveau professionnel. Bon, forcément, à échelle réduite, forcément, mais quand je vois Arteta, qui est à la tête d'Arsenal depuis 3 ans, la première année et même la deuxième année, ça a été très compliqué pour Arsenal d'exister. Quand on voit les résultats et le contenu de Arsenal cette année, on se dit que Arteta a eu besoin de temps, mais surtout d'échecs. Et ben, on est un peu dans le même principe. J'ai besoin de temps et d'échecs.
T'évoquais donc les deux matchs de championnat. Donc, c'est deux matchs que vous avez disputés à domicile. Le premier contre Trélissac, vous le perdez 1-0. Et le deuxième contre Lège, contre Mussidan, frustrant parce que vous menez 2-0 et vous faites égaliser de partout. Ça fait malheureusement un point en championnat. Derrière, il y a eu ces deux reports, hein, puisque Lormont était encore en Coupe de France. Puis après, ça a été Mérignac-Carlac qui était en Coupe de France. Dans un contexte où tu as besoin de temps, est-ce que finalement, avoir du temps pour bosser à l'entraînement, c'est pas un mal pour un bien, justement?
Alors, oui, sur cette idée-là, bien sûr que c'est un mal pour un bien. Mais je pense que ce temps-là, on l'a eu lors de notre préparation d'été. Sur les mois de juillet, août, on a eu le temps de mettre en place le projet, on a eu le temps de mettre les choses en place. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir de l'expérience, enfin, de prendre de l'expérience de la compétition, d'enchaîner les matchs, de voir ce qui nous attend, de rencontrer des adversaires, de nous jauger face à eux. Et ça, malheureusement, ça nous coupe un peu l'herbe sur le pied. Donc, quand on regarde Trélissac et quand on regarde Mussidan, on se dit, bon, il y a une petite évolution. Le match contre Mussidan, c'est la même chose que contre Trélissac. Sauf qu'à Trélissac, le match, on a perdu. À Mussidan, on a fait match nul. Donc, on se dit peut-être que dans les matchs qui vont arriver, ben, ça va nous sourire. Et forcément, ça va nous sourire. Je suis confiant. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais on a besoin d'avoir de la compétition. Et là, ces deux semaines de coupure, malheureusement, elles nous freinent un petit peu. Nous, on se concentre d'abord sur nous, sur nos forces et sur nos faiblesses. On essaie de travailler. Moi, je suis là pour apprendre des choses aux joueurs. Pour mettre en place notre projet de jeu. Cette semaine de match amical contre les Chamois a pu me laisser un peu de temps pour mettre en place une nouvelle animation offensive. Donc on a pu la mettre en place contre les Chamois. Donc cette semaine, ben, on repart sur une nouvelle semaine d'entraînement. Voilà, on se concentre sur nous. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes.
Vous concentrez et puis bosser, j'imagine que les matchs sont filmés et donc il y a limite plus de vidéos sur vous que sur l'adversaire.
Oui, et puis de toute façon, je vais te dire quelque chose, Christian, hein, pour être les meilleurs, faut battre les meilleurs. Donc peu importe ce qui nous attend le week-end, si nous on est à notre niveau, si on respecte ce qu'on met en place, si on se respecte nous et on respecte les adversaires, ça devrait bien se passer. Pour l'instant, malheureusement, il y a eu trop de manquements qui nous a coûté ben, une défaite et un match nul. Donc à nous de nous servir de ces scénarios-là pour pouvoir avancer et lancer véritablement nos saisons.
C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi 19h-20h30, nous retrouvons Alvin Henry qui répond aux questions de Denis de Christian.
Est-ce que Alvin, tu as également un regard sur les équipes inférieures de l'UEA Cognac? Et quel est aujourd'hui le point fort et le point faible qu'il faut plus travailler, l'un ou l'autre?
Bien sûr que j'ai un regard sur le club à part entière. Enfin, rien que tout à l'heure, j'étais encore sur les terrains, j'ai vu les U6, U7, j'ai vu les U8, U9, j'ai vu les U12, U13, j'ai vu les U14, les U16, les U17. C'est mon métier. Tous les jours, je suis au club. Toute la journée, je suis au club. Je regarde les entraînements, je regarde les jeunes. J'essaye d'aider mes éducateurs et d'être proche d'eux pour aller dans le sens du projet club. Donc oui, j'ai un regard sur l'équipe réserve. J'essaye d'aller un maximum de fois avec notre équipe réserve sur les U18. J'ai vraiment un regard général sur le club. Et puis j'ai encore quelques missions sur la partie on va dire technique jeune. Donc je suis là pour surveiller, parce que j'aime pas le terme.
Pour transmettre le flambeau à Limousin.
Voilà, j'ai un droit de regard sur ce qui se met en place. Et puis après, moi, je suis passionné par ce que je fais. Donc, je prends autant de plaisir chez les U6, U7 que chez les U16 ou les U17. Donc, bien sûr que j'ai un œil très avisé sur ce qui se passe au niveau du club. Et après, les points forts du club, ils sont très simples. Ce sont nos infrastructures. Nos infrastructures nous permettent vraiment de travailler de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire que nous, on arrête toute l'année, on a tout le temps l'entraînement puisqu'on a la chance d'avoir deux terrains synthétiques. Les jeunes s'entraînent tout le temps.
Est-ce qu'on peut citer les deux terrains, parce que c'est très important justement?
On a deux terrains synthétiques et deux terrains en herbe qu'on partage avec le club de Château-Bernard. Ça veut dire que toute la saison, nous, on s'entraîne. Il n'y a pas d'arrêt à cause des intempéries ou des terrains qui sont fermés. On a toujours des solutions de repli. Donc, si on s'entraîne toute l'année, ça veut dire qu'on travaille toute l'année. Et si on travaille toute l'année, ça veut dire qu'on progresse. Donc, ça, c'est vraiment notre point fort. Maintenant, notre point faible, c'est qu'on a un bassin de population qui est nettement inférieur par rapport à celui d'Angoulême ou par rapport à celui de Saintes. Donc ça veut dire que vraiment, pour que nous, on axe notre travail sur notre formation en interne. On peut pas se permettre d'aller chercher des joueurs, de recruter comme peut le faire Sainte ou même Angoulême. Nous, on n'a pas cette chance-là, donc on est obligé de travailler à la base et de travailler main dans la main avec les clubs qui sont aux alentours. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer des partenariats avec nos chers voisins.
J'ai bien compris, Amine, qu'on va se tutoyer, que tu étais, avec ton staff, des hommes de terrain. Ça, c'est important de le dire, parce que voilà, il suffit pas d'être salarié, rester dans un bureau, de s'occuper que d'équipe Fagnon, mais c'est bien de le dire, parce que c'est très important, et moi je suis je suis très reconnaissant par rapport au travail que tu effectues à l'UA Cognac et que tu as fait en Angoulême.
C'est gentil, oui, effectivement. De toute façon, ça passera que par le terrain. Avoir cette proximité avec les éducateurs, véhiculer les idées, véhiculer les intentions de jeu, que ça soit chez les jeunes ou chez les plus grands, c'est hyper important. Donc, je me dois d'être sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain du lundi au dimanche avec toutes les catégories. Je vais voir pendant les matchs. J'hésite pas à aller voir les éducateurs en disant, c'est top ce que tu fais. Essaye de ça. Pour complexifier, pour simplifier, parce que nous, on tend vers ça. Donc, forcément, c'est un travail collégial, c'est un travail de longue haleine, et on en est qu'au début, on en est qu'en prémisse. Donc, ça va demander du temps, beaucoup de temps, des échecs, comme je le dis. Mais ouais, effectivement, on est tout le temps sur le terrain. C'est encore ce matin à 9h, j'étais sur le terrain avec l'équipe première. À 13h, j'étais avec les U6-U7. À 15h, j'étais avec les 12-U13, les spécifiques gardiens. Voilà, on met plein de choses en place et je me dois d'être là pour observer, pour voir que ça se passe bien, pour que tout le monde prenne du plaisir, des tout petits au plus grand.
Vous restez sur un nul et une défaite. De ton regard de connaisseur, quelles sont les équipes qui peuvent jouer le haut de tableau aujourd'hui dans ce championnat IRA?
Alors on a une poule qui est vraiment où il y a vraiment de belles écuries. On est la poule un peu, on va parler de poule de la mort, si je peux me permettre l'expression. Je sais que Mérignac Arlac est très armé. Et on le voit encore ce week-end quand ils sont capables de gagner 3-0 en Coupe de France contre Guéret, qui surclassent un peu leurs adversaires là depuis quelques matchs. Donc Mérignac Arlac est bien armé. Je pense que Brive est très bien armé aussi de par leurs ambitions. Boulazac est une équipe qui a des arguments à faire valoir. Fétia joue toujours le haut de tableau. Le Sam joue toujours le tableau. Les réserves de N2, Angoulême et Trélissac, ils ont jamais c'est un peu les équipes qui faussent le championnat. Mais soit ils ont une équipe très jeune à réel potentiel, soit ils ont une équipe avec un peu d'expérience parce qu'il y a des joueurs de National 2. Donc c'est toujours difficile et délicat de jouer contre ce genre d'équipe.
Bien sûr.
Déplacements à Saint-Pantaléon, à Panazol, à Ille, qui sont pas faciles à gérer. Vraiment, on a une poule très très homogène. Hein. Il est difficile de tirer des équipes très 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 fortes et des équipes très 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 faibles. Je pense qu'on a vraiment une poule très homogène.
Et il y a combien de descentes dans la poule?
On est sur 5 à 6 descentes avec la refonte des championnats. Oui. Il faut attendre. Il faut voir ce que nos amis d'Angoulême, de Trélissac, de Bergerac et du Stade Bordelais National 2. Pour voir s'il n'y a pas une descente supplémentaire en National 3 et qui entraînera une descente supplémentaire en Régional 1. Donc, on est vraiment sur une année pas facile.
Ouais, c'est des saisons à pas rater, ça, parce que à tous les étages, ça descend.
Et nous, en plus, on est sur une année de transition, on a besoin de temps et d'échecs. C'est compliqué. Donc, autant vous dire que moi, mon challenge, il est vraiment pas facile à relever. Et il y en a plus d'un qu'on refusait le challenge.
Bah oui, pour être certain de se maintenir, faut faire top 8 pratiquement. Et moi, j'en parle chaque semaine avec David Perrier, c'est mon interlocuteur favori en ce moment avec l'AR1. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire top 8 avec tous les clubs que tu cites. Et je suis entièrement d'accord avec toi pour en avoir vu déjà quelques-unes. Et je pense que je verrai toutes les équipes d'ici la fin de saison. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent en N3. Et puis en plus, cette poule B, elle a la particularité de mêler à la fois l'ancienne Ligue du Centre-Ouest et puis la Ligue Aquitaine. Donc il y a de la région de Bordeaux, il y a de la région de Limoges. Pas facile.
Faut pas se tromper. C'est pour ça que c'est frustrant quand on laisse passer 2 points contre Missidan et qu'on laisse passer 3 points contre Trélissac. Parce que sur la physionomie du match et pour en parler avec Zivko, le coach de l'Iran de Trélissac et même les joueurs et le coach de Mussidan disent on s'en sort très bien, sauf que les perdants pour l'instant c'est nous.
Oui, tout à fait. Et puis on peut jouer le plus magnifiquement possible, au final la finalité, ce qu'on retient c'est le nombre de points qu'on a à la fin du match.
Exactement, comme le disait à juste titre l'ancien entraîneur de Marseille, Sampaoli, c'est bien beau de parler toute la soirée avec une femme, mais si c'est ton ami qui repart avec le soir, c'est pas
elle est pas mal. Elle est bien.
Et puis ça fait plusieurs années maintenant que tu es à l'UAC, donc t'as une belle vision notamment sur l'évolution de l'école de foot et puis de la formation connaissance en général. T'as été RTJ, t'as coaché plusieurs catégories. Quel regard tu tiens là sur l'évolution sur ces dernières années de la formation connaissance?
C'est simple, quand je suis arrivé au club, il y avait sur notre école de foot et notre foot à 11, il y avait un monde d'écart entre ce qui se faisait du côté de Saintes ou du côté d'Angoulême. C'est-à-dire que les équipes de Cognac chez les jeunes, c'était 5, 6, 7 buts d'écart avec nos amis de Saintes ou nos amis d'Angoulême. Après 4-5 ans de travail, la tendance est un peu inversée puisqu'on rivalise bien plus, nos résultats sont nettement meilleurs face à ces grosses écuries de la région, puisque sur des confrontations on est capable de battre largement Angoulême et largement Saintes, donc sur certaines générations, donc c'est plutôt bien. Donc l'école de foot a réussi à vraiment bien se structurer, on arrive à avoir de très bons joueurs et de très bons profils qui sont sollicités par les pôles espoirs, par les rassemblements districts, les rassemblements ligues, par certains même clubs professionnels. Donc ça veut dire que on travaille plutôt bien. Maintenant, le travail ne sera visible sur le foot à 11 que quand ces générations-là vont arriver sur le foot à 11. Donc on a encore un train de retard, malgré qu'on évolue en régional 1 ou régional 2 sur nos catégories foot à 11, on a quand même encore un train de retard par rapport à Angoulême, par rapport à Saintes sur le foot à 11. Par contre, sur l'école de foot, je pense qu'on a un train d'avance.
Oui, puis c'est vrai que la formation, c'est quelque chose de longue haleine qu'on met du temps à mettre en place et finalement, c'est du travail à long terme puisque les fruits, on les récolte plusieurs années après.
Exactement, et puis c'est là où est tout le projet club, c'est-à-dire que sur une génération U11, nous l'idée c'est de l'accompagner jusqu'en U18. Alors forcément sur chaque année il va y avoir des joueurs qui nous quittent, des joueurs qui arrivent, des joueurs qui progressent, d'autres peut-être un peu moins, mais l'idée c'est qu'en U18 il y ait 1, 2, voire 3 profils qui soient capables d'intégrer notre régional 2 au minimum ou notre équipe Fagnon au maximum.
Et d'ailleurs la R2, on va aussi l'évoquer, c'est une équipe, déjà vous êtes en R1 R2, ce qui est pas mal. On dit généralement que quand on a deux divisions d'écart c'est bien, mais vous en avez qu'une seule, donc c'est aussi intéressant. C'est une équipe qui est coachée par Kenny Moko, si je dis pas de bêtises, et c'est une équipe qui pareil va vouloir se maintenir en R2.
Oui, pareil, on a un peu sur le même sur le
il y a eu aussi un renouvellement d'effectifs pour cette équipe là.
Exactement, beaucoup de départs l'année dernière, donc du coup on a dû pallier à ces départs. C'est une équipe très jeune puisqu'on a pas mal promotionné de U18 et de U19, qui bénéficie sur certains week-ends de descente de l'équipe première, mais ça reste quand même relativement jeune, on manque un peu d'expérience, donc vraiment voilà, l'objectif c'est de que cette équipe serve de tremplin à nos jeunes pour pouvoir continuer leur progression et essayer de, en termes de résultats, de se maintenir et puis de voir les choses un peu mieux. L'année dernière ça a été très difficile puisqu'on se maintient à la dernière journée. Là si on peut respirer un petit peu avant, ça serait bien.
Ouais, et puis c'est vrai que c'est aussi l'apprentissage du football adulte et la catégorie qu'on soit en U18, U19 par rapport à les championnats seniors, c'est complètement différent. On l'évoquait d'ailleurs la semaine dernière avec Romain Rigalo.
Ah oui, c'est on change du tout au tout, c'est pas la même intensité, c'est pas les
mêmes. D'ailleurs, tu peux en témoigner toi, parce que t'es arrivé en senior à un moment donné où Angoulême était vraiment dans une période très compliquée, le club avait pratiquement fait un deuxième dépôt de bilan, et du coup tu te retrouves rapidement en équipe réserve, capitaine de l'équipe réserve, avec une moyenne d'âge de l'équipe réserve extrêmement élevée en plus, et on va dire que t'as été jeté dans le grand bain de la R1 enfin de la DH à l'époque ou de la DHR très tôt.
Ouais, très rapidement. Donc la transition, c'est vrai, entre les 17 ans nationaux et le monde senior, bah, c'est vrai que c'est un monde d'écart. C'est tout va plus vite, les duels sont plus intenses, le pressing est différent. Enfin, c'est voilà, on n'est plus dans l'apprentissage. Et puis après, faut pas l'oublier, c'est qu'on est dans un devoir et une attente de résultat qui est pas la même que chez les jeunes. Chez les jeunes, le résultat importe peu. Chez les seniors, et on voit là avec la refonte des championnats, il faut pas se tromper. Et c'est ce qui m'embête un petit peu cette année sur notre championnat R1, c'est que les équipes veulent tellement ne pas descendre, qu'ils sont plus omnibulés par le fait de gagner plutôt que de jouer. Et des fois, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Ouais. Et ça m'embête un peu. Et c'est pour ça j'ai besoin de temps et d'échecs. Malheureusement, j'ai pas trop de temps.
Et puis de toute façon, c'est en se trompant qu'on apprend quelque part.
Bien sûr. Ah oui, forcément. J'apprends de mes erreurs.
Bête que cette fin de saison a pas deux, voire potentiellement trois descentes, mais a cinq, voire potentiellement six descentes. Ça amplifie le défi qui t'est proposé.
Bien sûr. C'est ce que je dis à mes joueurs toute la semaine. Je leur dis simplement que je suis jeune, je vais me tromper. Acceptez que je me trompe, comme vous acceptez que vous allez vous tromper. On est là pour apprendre. Servons-nous de nos expériences passées pour pouvoir avancer. Donc ça, les joueurs le comprennent, l'entendent. Je trouve qu'ils adhèrent plutôt bien au discours et surtout au projet. Donc j'ai la chance d'avoir un groupe comme ça. Maintenant, voilà, c'est vrai que la conjoncture actuelle fait que on va pas devoir trop se tromper. Trop souvent.
Oui, tout à fait.
Vous écoutez Attitude 98.3 et 97, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h30, nous retrouvons Alvin Henry qui répond aux questions de Christian. Christian, c'est à toi.
Moi, avec Alvin, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, c'est vrai que c'est toujours un interlocuteur de qualité. Alors, d'ailleurs, dans les petites émissions que je faisais, dans les travaux de Lebon, je pense que la meilleure émission que j'ai pu faire, c'était avec monsieur Alvin Henry et monsieur Torakaba et monsieur surtout Bandigou Tukara. Et la transition est toute trouvée puisque tu as un frère jumeau, ouais. pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc ton frère, pareil, il coach ouais. À Toulouse au sein du TEF.
C'est ça, ça fait 8 ou 9 ans qu'il est au TFC à Toulouse. Alors il a en charge les U14 et cette année il a été promotionné adjoint de la Nationale 3. Donc c'est bon, c'est un milieu. J'échange énormément avec lui, puisque bon, c'est le milieu professionnel et forcément c'est.
Ah oui, c'était justement ma question parce que entre frère et Henri qui sont coachs, ouais. dont des cadres forcément différents. Toi à Cognac, un club amateur en reconstruction, et puis Dylan qui lui est plus dans le monde pro. J'imagine que vous échangez beaucoup entre vous.
Ah oui, on échange énormément. Alors c'est très formateur parce que j'ai des problématiques que lui n'a pas et lui a des problématiques que je n'ai pas. Donc forcément, on a un œil un peu extérieur. Alors qu'on fait le même métier, donc c'est très formateur et pour lui et pour moi. J'étais encore au téléphone hier soir avec lui très tard, puisque quand on sait au téléphone, c'est soit très tôt le matin, soit très tard le soir, puisqu'on commence soit tôt, soit et on finit tard. Donc il m'aide, il me conseille, je l'aide, je le conseille, et c'est vrai que on essaye d'avoir d'entretenir un lien et ça m'aide énormément autant sur mes contenus de séance que sur ma gestion humaine des joueurs.
Oui, puis c'est vrai que vous avez un dénominateur commun tous les deux, c'est que vous avez commencé à coacher super jeune, hein, à la CFC. D'où ça vous est venu justement cette vocation de coacher? Parce que pendant que tu étais joueur à la CFC, notamment en national, CFA2 à l'époque, tu coachais aussi les jeunes, notamment avec votre qualification en U13 à la finale nationale. Comment c'est venu justement cette vocation de coacher?
Ah, ça a toujours été. Je pense que c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui a toujours été en moi. Depuis que je suis tout petit, je joue beaucoup à des jeux comme Football Manager ou ce genre de choses. J'ai toujours été vraiment passionné par le fait de coacher, de véhiculer des idées, d'être. Et puis j'ai une personnalité où je suis, en toute humilité, plutôt un meneur d'hommes. Donc, j'essaye de véhiculer un peu mes idées, mes convictions. Et puis j'ai essayé de le faire avec les jeunes. Et puis j'ai vite vu que je prenais énormément de plaisir quand sur une semaine de travail on passe on passe du temps à mettre en place des choses et qu'on voit que le week-end ça marche et ça réussit et puis que ça nous amène surtout à des résultats plutôt intéressants, dont cette finale nationale avec la génération qui joue maintenant, qui sont dans le groupe.
Qui va jouer contre toi dans quelques semaines.
Voilà, qui sont dans le groupe de la Nationale 2 à Angoulême ou qui sont passés par des clubs pro, qu'on fait rentrées en Ligue 2. Je pense à Abdoulaziz Gassama qui est rentré en Ligue 2 à Châteauroux. Je pense à Lucas Macan qui était à Monaco. Yannis Elmadi qui a connu une sélection en équipe de France. Et plein d'autres qui évoluent soit en Nationale 2, soit en R1. C'est top, quoi. Je me dis que j'ai laissé une trace dans leur apprentissage qui leur a permis d'avancer, de progresser, de se construire et en tant que footballeur et surtout en tant qu'homme.
Et puis non seulement il y a donc cette qualif à 4 Bretons, mais il y a aussi votre deuxième place au tournoi U11 de... C'était U13, il me semble déjà. C'était U11, U11 encore à l'époque. U11. C'était U11, U11 déjà. U11, oui. Au tournoi de la CFC, qui était vraiment un gros tournoi. Jadis. Et puis c'est vrai que ça me fait on peut rebondir sur le fait que maintenant il y a le tournoi Arsando à Cognac. J'imagine que d'avoir un tournoi avec beaucoup d'équipes pro, ça permet au standing justement de cette formation d'augmenter.
Alors ce qui est plutôt intéressant, c'est que l'image du club et la vitrine du club chaque année en sort grandi, parce que quand on propose un tel événement, forcément on véhicule une image extrêmement positive auprès des collectivités, auprès de nos instances de football, auprès de tous les clubs de la région et même, je veux dire, du territoire français. Quand on est capable d'accueillir le Paris Saint-Germain, quand on est capable d'accueillir Nîmes Olympique, Le Havre, Toulouse FC, le Red Star, Créteil, Rodez, énormément de clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Alors déjà, on le fait pour les enfants parce que c'est des expériences. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur et je l'ai vécu en tant qu'éducateur. C'est des expériences qui sont uniques. Regarde, 10 ans après, Christian, on se retrouve et on en parle encore.
Tout à fait.
Pour ces jeunes-là, c'est formidable. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ma motivation première. Et puis derrière, il y a le fait, voilà, de faire partager des expériences uniques à nos jeunes. Et après, il y a l'image du club qui rentre en jeu et qui est extrêmement positive. On tisse des liens avec les clubs pro qui sont, enfin, c'est incroyable. Et puis, faire partager cette expérience-là aux jeunes du club et aussi et surtout à nos voisins locaux, c'est top. C'est top. Qui peut dire aujourd'hui que dans son parcours de formation de footballeur a joué contre le Paris Saint-Germain?
Ah, tout à fait. C'est aussi ça le charme des tournois charentais. Hein, quand t'as un Soyo Bordeaux, quand t'as un Jarnac Stade Rennais, ça met des étoiles dans les yeux des jeunes.
Ah, c'est clair. Et puis, nous, sur cette génération, au tournoi d'Angoulême où on perd contre Paris FC en finale, on voit quand on apprend 10 ans après que Hannibal a signé à Manchester United.
Oui, tout à fait.
Et puis, voilà. Et j'ai pu l'affronter en catégorie jeune. Donc,
il était pas si mal ce petit numéro 10 avec les cheveux longs, finalement.
Ah, c'est lui qui marque en plus. il était très bon. Mais pour les jeunes, c'est des moments qui sont inoubliables et je me dois de redonner ce que le football m'a apporté, entre guillemets.
Et d'ailleurs, sur l'Arsando version 2023, est-ce que tu as un regard ou est-ce que tu as transmis toute délégation à Limousin? Alexandre Limousin, du coup, le nouveau RTJ.
Aucune délégation. Je reste à la tête de ce tournoi-là, puisque c'est une grosse organisation et ça fait maintenant 3 ans que je le mène. Donc moi, je suis un peu... j'ai un peu l'habitude et je sais comment il fonctionne. Donc c'est moi qui garde l'organisation de ce tournoi là. Donc on a déjà envoyé les invitations pour les clubs professionnels. On espère que ce tournoi va devenir peut-être européen. Ça serait vraiment top pour le club. Mais bon, ce sont des choses qui sont pas faciles à mettre en place. Donc voilà, toujours dans cet esprit de faire vivre des émotions et des expériences inoubliables à nos jeunes.
C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h20, nous retrouvons Alvin Henry qui répond aux questions de Christian. Christian, c'est à toi.
Dans quelques semaines, il va y avoir un match à Lebon entre la réserve de la CFC et Cognac. Forcément un derby que tu attends, parce que Lebon, c'est aussi un peu ta maison. T'as connu beaucoup de d'heures de gloire là-bas. Je pense notamment à ton but contre Poitiers en Coupe de France qui nous amène au pénal.
Ouais.
Sur un, je crois que c'était un quatrième ou un cinquième tour.
Ouais, c'est ça.
Ce match contre la CFC, forcément, c'est un derby. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Bon, moi, j'espère que ce sera la CFC qui l'emportera, mais ça m'empêchera pas d'aller prendre un verre avec toi à la fin du match. Comment tu le vois, justement, cette rencontre?
Non, déjà, je tiens à véritablement souligner le travail que nos amis angoumoisins font, que ce soit Patrick Trio dans la gestion club, Pierre-Emmanuel Allard dans la direction sportive, ou encore Mathieu Kouvida chez les jeunes. Enfin, la tournure que le club a pris. Alors moi, je le connais depuis, puisque j'ai passé beaucoup d'années là-bas. Mais quand je vois la dimension que le club prend, je me dis que pour la région, c'est top, c'est magnifique. Et puis bon, ben c'est le club dans lequel j'ai commencé, donc ça fait plaisir de les voir réussir. C'est vraiment top. Maintenant, sur cette confrontation de Régional 1, enfin. Moi, je prône énormément le jeu. J'espère qu'on va assister à une belle rencontre, que ça va bien jouer. Il y aura aucune animosité, aucune rancœur, rancune ou colère contre cette équipe-là. Bien au contraire, c'est mon club de cœur. J'espère juste qu'on va assister à un beau match, que les joueurs, ben, forcément, seront motivés pour face à ce derby-là. Maintenant, je le prends pas comme un match que je dois, enfin, à tout prix gagner, parce que d'une, j'ai rien à prouver, mes joueurs ont rien à prouver. Si, comme je le disais tout à l'heure, on est sûr de nous, de notre force, de nos convictions, de notre projet, on peut mettre n'importe quel adversaire. C'est le seul ennemi qu'on aura, ça sera nous-mêmes.
Oui, et puis c'est vrai que pour faire un beau match, il faut deux belles équipes, il faut aussi un beau terrain, et comme le match a lieu fin novembre, on espère qu'il pleuvra pas trop et que le terrain soit de bonne qualité.
Et puis Christian, je vais te dire quelque chose. Si Angoulême gagne avec tous les jeunes qui sont passés entre guillemets entre mes mains, ça voudrait dire que j'ai pas trop mal travaillé.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs, tu gardes toujours un petit contact avec eux quand tu les recroises sur les bords de terrain, ou ce rapport d'éducateur à joueur, c'est quelque chose que vous auriez pour toujours.
On a toujours un lien intime quand on a passé autant de temps ensemble et qu'on a vécu autant de choses ensemble, que ce soit sur le côté sportif ou même voilà dans l'accompagnement, que ce soit à l'école, sur les sollicitations par exemple qu'a eu Lucas Macan ou d'autres joueurs. Forcément, on garde un lien très proche, un lien de proximité qui pour moi, c'est un plaisir de les voir évoluer en National 2, ou de les voir leur nom dans le groupe de la National 2, ou faire une rentrée, ou faire un banc. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, oui, je garde contact un peu avec eux. Ça reste très cordial. Quand on se croise, ils sont très respectueux et très reconnaissants de ce qu'on a pu vivre. Et ça, je les remercierai jamais assez. Maintenant, voilà, moi, je leur souhaite que du bien, et j'espère qu'une seule chose, c'est que quand je jouerai contre Angoulême, qu'ils soient pas dans le groupe, mais qu'ils soient plutôt dans le groupe de la National 2. Enfin, c'est vraiment ce que je leur souhaite, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je souhaite que du bien à ces joueurs-là, à ces jeunes-là, avec lesquels j'ai travaillé, que ça soit à Angoulême ou ailleurs. J'espère que ça va être l'avenir de la National 2 d'Angoulême.
Tu entraînes des joueurs avec qui tu as joué? Un peu. Comment tu gères tout ça, finalement, le fait de maintenant être le coach et d'avoir finalement des coéquipiers? Un joueur comme Ika Bourinet, c'est en plus quelqu'un qui est plus vieux que toi au niveau de l'âge.
Ouais. Alors c'était pas facile. C'est vraiment pas facile, parce que de devenir coéquipier à coach, c'est vrai que c'est pas facile. On se doit d'avoir une certaine barrière avec ces joueurs-là. Maintenant, pour moi, tout passe par la communication et le dialogue. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'échanges et d'entretiens en début de saison, en leur indiquant que voilà comment je fonctionne, voilà mon tempérament, voilà ma personnalité, voilà ce que j'attends de vous. Il faut qu'on arrive à tisser un lien de confiance et qu'on soit capable de se dire les choses. C'est pas parce qu'on a été amis ou qu'on a été coéquipier que il doit pas y avoir de la sincérité. On doit être capable de se dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc j'échange énormément avec Tora. J'échange énormément avec Mika. Ce sont forcément des joueurs que je ne peux pas traiter comme les autres. Mais tout, pour moi, tout passe par le dialogue. Et ça, ils l'ont bien entendu. Et je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment la chance d'avoir des joueurs qui sont très intelligents et qui savent faire la part des choses.
Azine Damo, quels sont les objectifs que tu peux nous décrire pour le club? Et ensuite, et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pardon?
Voilà, comme je l'ai dit, les objectifs, on a deux objectifs principaux. La première, c'est de recréer une dynamique de groupe. Et la deuxième, c'est de retranscrire les idées de jeu, le projet de jeu qu'on met en place lors des matchs le week-end. Voilà nos deux objectifs principaux. Après, on va espérer se maintenir le plus vite possible dans cette poule relativement élevée, mais on n'ira pas plus haut dans les objectifs, en tout cas, à l'heure où je vous parle. Et après, pour le club, c'est de continuer à travailler sur notre formation, de continuer à développer nos joueurs en interne, de continuer à leur faire vivre des expériences, des bonnes expériences et des expériences inoubliables avec le tournoi Arsando. Et puis après, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer sur la dynamique qu'on met en place, que nos blessures du passé se soignent rapidement. Et que vous puissiez voir le réel potentiel, et je dirais pas de l'AR1, mais je dirais du club en sa globalité.
Parfait, Alvin, merci. C'est une émission d'une extrême qualité. Le temps est passé très très rapidement avec toi. Exactement. On t'écouterait jusqu'au bout de la nuit.
Ah, c'est gentil.
Il faut inviter d'autres lurons comme Tora ou comme Bandi. Hein. C'est obligatoire.
Pas de problème. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Voilà, Alvin. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite le meilleur. On va suivre avec attention le déroulé de cette saison et on viendra te faire un coucou et peut-être faire une émission ensemble sur la fin de saison.
Vous êtes les bienvenus. Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Alvin. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Merci, Alvin. Salut.